Évidemment, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Particulier, tous les jours sont particuliers. Hein. Mais aujourd'hui, c'est la fête des papas, la fête des pères. C'est donc un jour où les papas sont en honneur. Et c'est super, c'est chouette. Et dans un monde comme le nôtre, où les choses ne sont pas aussi faciles, bien entendu, c'est un plaisir de souhaiter une bonne fête au père, mais en même temps, ce n'est pas évident de réaliser cette fonction du père. Alors ce matin, je vais avoir peut-être un travail un peu particulier avec les papas, mais aussi avec la communauté. J'aimerais ce matin parler de ce que c'est qu'être un père. Être un père selon Dieu, selon la parole de Dieu. Bien sûr, je suis conscient que vous n'êtes tous pas des pères ici. Hein. Il y a des mamans ici, il y a des enfants, il n'y a pas que des pères. Et il y a encore des jeunes gens qui ne sont pas encore pères. Mais peut-être que l'enseignement biblique reste valable, même si elle ne concerne pas en preuve, même si elle n'a pas la cible principale. Elle reste importante. Pourquoi ? Parce que les jeunes ont à entendre ce que dit la Bible par rapport à la fonction du père. Les dames ont aussi à entendre ce qu'est un père afin d'accompagner le père dans sa tâche. Les jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, ont aussi à entendre afin de se préparer en sachant le modèle biblique de la paternité. Toutes ces choses sont importantes donc pour l'Église en tant que communauté. Alors, je serai très bref aujourd'hui. Pour une simple raison, c'est que l'enseignement sur la paternité, j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que c'est un monde. Il y a énormément de choses dans la Bible sur la notion de la paternité. Et franchement, une prédication, ça ne comblera rien. Donc je vais être vraiment, comme on dirait en langage français, je vais être liminaire. Mais quand même suffisamment pour que chacun et chacune parte avec quelque chose, un défi dans le cœur. Prions. Seigneur, merci pour le fait que tu es avec ta parole. Tu es dans ta parole. C'est ta parole qui est la source de la vie. Tu as dit un mot et chaque chose est venue à l'existence. C'est ta parole qui formate l'existence. C'est ta parole qui bouscule les destins. C'est ta parole qui installe les personnalités. Accompagne-nous dans cette église et dans le cœur de chacun, chacune dans ce lieu, pour que nous comprenions et que nous sachions quelle est ta volonté, et qu'ainsi nous accompagnons ton œuvre dans la bonne compréhension, et qu'ainsi les pères, au milieu de nous, en devenir ou déjà pères, ou qui sont déjà grands-parents, puissent, Seigneur, être là pour avancer avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres autour d'eux, et que les autres personnes, les dames, les jeunes, puissent aussi être enrichis par cet enseignement. Conduis-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. C'est un privilège d'être un père, un honneur, mais aussi une charge. On n'est pas papa un jour, et puis après, on ne l'est plus. On est papa un jour, et c'est pour toujours. Même si l'enfant devient un grand monsieur comme moi, là, avec les cheveux blancs, j'ai toujours un papa. Le mien, il est décédé, mais s'il était toujours en vie, j'appellerai toujours papa. Et lui sera toujours papa, même chez lui à la maison, alors que j'ai chez moi. Le jour où je ne vais pas bien, il se préoccupera toujours, il se tracassera. Même s'il a 80 ans, le mien aurait eu 80 ans cette année, il serait toujours en train de se tracasser, même s'il ne peut plus rien faire pour moi. Il se tracasserait toujours encore. Parce que quand on est papa, c'est pour toujours, c'est pour la vie. Il y a donc dans la vie de l'homme un avant d'être papa et puis un après avoir été papa. Les choses changent. Hein, Mathieu ? Hein ? Des nuits blanches, hein ? Des petits pleurs d'enfants, hein ? Et puis d'autres responsabilités. Et mon vieux, t'es parti pour longtemps, hein ? Hein ? Tu n'es pas parti seulement que pour quelques années. Parfois, certains se disent, ouais, bon, au bout de quelques années, il va grandir, il me fiche la paix. Où tu crois ça, toi? Ils seront toujours là. Et de toute façon, même quand ils nous demanderont, enfin, je parle en tant que père, nous demandons de leur fiche la paix, on ne sait pas leur fiche la paix. C'est pas leur fiche la paix. On se sent responsable. Il y a un homme qui a écrit un livre que j'ai feuilleté rapidement, qui s'appelle « Être un père selon Dieu ». C'est un monsieur qui a eu 5 enfants et qui a écrit cela. Et il a fait une préface que j'ai trouvée très remarquable. Il a dit que la paternité en Occident est en crise. Aujourd'hui, l'homme ne sait pas comment exercer sa fonction de père. Il ne se retrouve plus. Il est perdu entre le père biologique, le père nourricier, le père symbolique. Il y a plusieurs choses dans lesquelles l'homme ne se retrouve plus. La pression des mouvements féministes, les idéologies politiques, la théorie du genre, des choses sont venues comprimer la fonction du père qui ne se retrouve plus. Et même chez les chrétiens, ils ne calibrent pas leur compréhension de ce que c'est qu'être un père sur le modèle biblique parce que ils ne prennent pas le temps non plus de regarder vraiment sérieusement à quoi cela correspond dans la Bible. Depuis la révolution, depuis mai 68, on sait que dans notre société occidentale, beaucoup de choses ont bougé, ont énormément bougé. La fonction du père qui était celle d'interdire, de rappeler l'interdit, d'instaurer les règles, n'a plus de sens, puisqu'il est interdit d'interdire. Et le rôle du père en tant que serviteur de sa famille est complètement galvaudé puisqu'il y a égalité entre l'homme et la femme dans les fonctions. Je rigolais, une jeune fille chez qui je vais souvent acheter, on a été aidé pas très loin de chez moi, je lui disais, elle me racontait, parce que bon voilà, elle était contente de me dire, elle disait, mais moi chez moi, mon petit copain, eh ben, les fonctions sont claires. Il ne doit pas s'asseoir devant son fauteuil et étendre ses pieds, hein? Non, hein? Hein? Moi, je fais la poubelle. Non, pardon. Lui, il fait la poubelle. Lui, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Et moi, je fais ci, je fais ci, je fais ci, je fais ça. C'est notre société, hein? Elle est égalitaire. Tu veux? Eh ben, on partage. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Tout ça, ça galvaude complètement la notion de la paternité. Ce matin, je voudrais juste actualiser la question de la paternité au regard de la parole de Dieu. On va le faire de deux manières. J'ai dit que je ne serai pas long. D'une part, peut-être brosser rapidement ce que c'est que la fonction du Père selon la Bible. Et d'autre part, peut-être juste la question de quelles sont les ressources dont dispose un Père pour être un Père selon la parole de Dieu. Deux petites choses. J'espère que je serai court, hein, même si je promets d'être court, parce que je suis passionné par ce sujet depuis que je suis moi-même père. Peut-être nous allons prendre deux textes de départ pour ce partage. Je propose Proverbe chapitre 23, on va regarder du verset 15 au verset 25. Ah, je sais le lire ici, chouette! Alors, Proverbe 23, 15 à 25. « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. » Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiers la sagesse et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne la naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle-ci, celle qui t'a enfoncé, soit, enfanté, pardon, soit dans l'allégresse. Nous gardons ces textes en vue. Éphésiens chapitre 6, le verset 4, simplement. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Si j'ai un mot à souligner ici, c'est selon le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible dans son ensemble, la fonction du Père est une fonction très importante. Savez-vous que en hébreu, le mot famille, le mot foyer ou famille, qu'on peut dire aussi en français, et la conjonction des deux mots est issue de deux mots, bet, av, qui veut dire littéralement la maison du père. La famille, le foyer, c'est littéralement la maison du père. La maison dirigée par le père. La maison dont le père est le responsable, mais aussi la personne ressource. La maison dont le père est le chef, l'inspirateur, celui qui donne la ligne de conduite. Celui dont on va retrouver les traits dans la famille, dans les enfants. Le père est celui qui donne toute la tonalité de la famille. Ainsi, on va dire, tiens, les bouts là sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah tiens, c'est comme leur père. Les sustacs sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Owen, il est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que, tiens, Matthieu, son père, est comme ça. La maison du père. La maison dont le père est le responsable. Il est responsable de quoi? Du bien-être de chaque membre de la famille. Du bien-être pas seulement économique, matériel, mais du bien-être moral, spirituel, psychologique. Quand ça chauffe dans une famille, le père est celui qui doit se poser la question de pourquoi ça se passe comme ça dans ma famille. Dans l'Ancien Testament biblique, la notion du père est une notion beaucoup plus large parce que la famille, c'était pas que la famille dans le sens de la maisonnée, de la maison, de la notion nucléaire, mais c'était carrément la famille dans le sens de la tribu. Ainsi, il y avait un patriarche dans la tribu. Et lui, une tribu était composée de plusieurs clans, et les clans étaient composés des familles. Et il y avait un patriarche. C'était ça la figure d'un homme comme Abraham. C'était ça la figure d'un homme comme Isaac, comme Jacob. Lorsque Jacob entre en Israël, en Égypte, à l'appel, à l'invitation de Pharaon, dont Joseph est devenu le vice-roi, eh bien, il rentre en tant que patriarche. Il a 70 personnes derrière lui. Un père, donc, c'est un patriarche, mais un qui doit avoir une vision qui est pas seulement de dire « mes enfants, ma femme, mes enfants », mais aussi « ma descendance », qui donne une ligne de conduite qui doit perdurer dans plusieurs générations. C'est pour ça que dans la vision de Dieu, la bénédiction de Dieu, il dit qu'il bénit jusqu'à la millième génération. C'est pas un problème pour lui parce qu'il compte sur le Père pour transmettre cette morale, cette spiritualité, cet attachement, cette fidélité à Dieu qui va durer dans la famille. Dans le Nouveau Testament, comme je vous ai dit, la notion dans l'Ancien Testament, c'est plus large. Dans le Nouveau Testament, la notion de la famille, évidemment, se mêle à la conception grecque de la famille. Dans la société grecque, dont nous avons parlé des Hébreux, dans la société grecque, la famille est beaucoup plus faible, plus petite, avec les éléments qui sont très, très limités en nombre. Donc, vous voyez, famille, foyer égale maison du Père. Ce qui souligne le rôle du Père. Le Père est donc le moteur de la vie de la famille et principalement celui qui donne la ligne de conduite, la ligne à suivre dans l'éducation des enfants. Un Père est deux choses. D'abord, principalement, un géniteur, il donne la vie, n'est-ce pas? Oui, pas tout seul, hein? D'accord? Il y a quand même la femme qui porte, hein? Qui porte pendant quand même 9 mois. Bien sûr, l'homme doit supporter, hein? Mais enfin, la femme porte quand même, c'est une fonction importante. Il ne faut pas non plus négliger cette fonction. Mais le père donne la vie. Ça, c'est la première fonction. Et la deuxième fonction, c'est que le père est chargé de conduire cette vie-là, de la petite vie jusqu'à l'homme. Capable lui aussi de faire la même chose qu'on a fait pour lui, d'être aussi porteur de vie et conducteur aussi pour former aussi d'autres hommes. Je vous ai fait lire 2 textes. Le point commun entre les 2 textes que nous avons lus, c'est que l'éducation des enfants, selon ces 2 textes et principalement dans l'ensemble de la Bible, est centrée sur l'individu. On cherche son développement. On cherche à ce que l'individu devienne quelqu'un qui dispose des qualités morales et spirituelles. On pousse donc vers ce modèle où l'individu qui se développe ses qualités morales, mais en rapport avec la famille. Chez les Hébreux, la notion de la famille est importante. L'être humain n'est être né en termes d'identité, il appartient à une famille. Chez les Grecs, c'est différent. C'est pour ça qu'il faut bien lire, quand on lit dans la Bible, on voit l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit bien la notion, la conception grecque et la conception hébreu. Chez les Grecs, l'être humain est d'abord formé pour ce qu'il sera par rapport à la société. On veut former des citoyens. L'éducation grecque est une éducation où l'on vise de former des citoyens et pas nécessairement des individus attachés à leur famille, qui partent de leur famille, qui vont aider leur famille. C'est aujourd'hui, le modèle de nos États, dans notre pays, est un modèle grec. On cherche à former des citoyens. On s'en fout de comment ils vivent leur vie privée, hein. Tu peux être un type... D'ailleurs, vous le savez bien, on peut être tout ce qu'on veut. Mais pourvu que tu ne fasses pas, tu ne commettes pas des infractions, que tu ne fasses pas des choses qui sont susceptibles d'être condamnées par l'État. Point barre. C'est le modèle grec. Mais le modèle hébreu, c'est je forme un enfant pour qu'il soit fidèle à sa famille, qu'il soit attaché à sa famille, qu'il tienne aux valeurs de sa famille et qu'il permette à sa famille d'aller de l'avant. Bien sûr, il va travailler. Bien sûr, il va gagner sa vie. Le point commun donc de ce texte, c'est d'abord l'éducation centrée sur l'individu dont on veut développer les qualités. Deuxième élément qui est frappant ici, c'est que c'est centré sur la crainte de l'Éternel. Tu peux reprendre le texte du Proverbe 23. Verset 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il y ait toujours la crainte de l'Éternel. On ne vise rien d'autre dans l'éducation que d'avoir cette base qui est la crainte de l'Éternel. L'éducation ne consiste pas à dire à l'enfant comment il doit se comporter socialement, comment il doit être gentil, il doit être poli. Oui, bien sûr. Mais le but, c'est de faire d'un enfant quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui aime Dieu et qui s'engage dans les voies de Dieu. Ça, c'est le but. Dernière chose à signaler dans les 2 textes, si on doit les comparer, on reviendra sur chaque partie du texte, comme ça on fera ça assez rapidement. Dernière chose à signaler simplement, c'est que le rôle du père est celui d'incliner le cœur de l'enfant. Le père ne travaille pas avec le caractère de l'enfant n'importe comment. Le père cherche à atteindre le cœur de son enfant. Tu peux répondre à tout ça. Le nombre de fois qu'il souligne l'importance du cœur. Vous avez vu ça? Verset 15. Si ton cœur est sage, mon cœur sera dans la joie. Verset 17. Que ton cœur n'en vit pas. C'est le cœur que le père doit viser. Et quand on vise le cœur, on est alors dans une dynamique active. L'éducation d'un enfant, c'est pas quelque chose de passif. Ça ne consiste pas à dire, je mets l'enfant devant la télévision, il regarde de bons dessins animés, les dessins animés chrétiens, il regarde ça 24 heures sur 24, et c'est très bien. Ce n'est pas de l'inscrire dans des très très bonnes écoles où on ne parle jamais de ces choses vilaines. On n'en parle pas. C'est une très bonne école. C'est pas ça. Enfin, ce n'est pas que ça. C'est pas le mettre dans des bonnes relations, des gens bien bien propres, bien bien corrects, ou l'empêcher à la maison de fréquenter des... Non, c'est une éducation active. J'entre dans la vie de mon enfant. Je veux savoir ce qu'il fait. Il y a donc un contenu moral que je vise et un contenu spirituel. Et cette sagesse que je veux apprendre à l'enfant, eh ben, je l'apprends dans la crainte de l'Éternel. Donc, un accompagnement concret, un accompagnement qui ne s'arrête pas simplement à mettre le cadre, mais aussi à travailler dans le cadre, à se mettre à la place de l'enfant, à se demander, mais comment je peux faire pour que cet enfant grandisse avec des principes que je, moi-même, éprouvais, que moi, j'ai même moi-même compris concrètement, pratiquement. Dans le texte d'Éphésiens, on va voir les mêmes principes. Et je vais peut-être plus m'appuyer sur le texte d'Éphésiens, même si c'est plus court. Ici, l'important, c'est de voir tout l'ampleur de la dimension morale. Mais le texte d'Éphésiens, il est très court, mais il est vraiment très intéressant. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a deux verbes, et donc deux fonctions. N'irritez pas, élevez-les. Deux verbes qui peuvent aussi symboliser deux étapes dans la manière d'éduquer les enfants. Première étape, c'est tout ce qui concerne malheureusement la confrontation, la discipline, le rapport à la fois à rassurer, mais aussi à imposer des règles, à apprendre l'obéissance. Et puis deuxième étape, c'est l'étape plutôt où l'enfant n'est plus un gamin. À partir d'un certain âge, on ne commence pas à crier sur les enfants comme on crie quand ils sont petits. D'ailleurs, ils ne vous écouteront même pas. Mathieu ne fait jamais ça. Il ne t'écoutera pas. À partir de ses 15, 16 ans, 17 ans, tu peux commencer à lui crier comme tu veux. La seule chose que tu peux faire, c'est avoir envie de le frapper, mais ça ne change rien. C'est tôt, c'est avant qu'on développe cette possibilité que l'enfant écoute. D'une manière générale, ce texte, je vais juste sortir quatre rôles du père dans ce texte. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Premier rôle. Le rôle du père est de protéger, de sécuriser, de rassurer les enfants. Il est là pour créer les conditions propices à une bonne éducation. Il n'est pas là pour forcer l'enfant malgré son caractère. On ne rentre pas dans un rapport où l'on se bagarre à l'infini sans que l'enfant ne puisse comprendre pourquoi est-ce que mon père m'impose des règles que je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il fait tout ce qu'il fait. On ne tombe pas dans les situations où la domination, l'autoritarisme emmène l'enfant à s'irriter. Derrière le mot irritation, il y a le mot colère. Mes amis, l'une des raisons pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes dans notre société, c'est à cause de la colère. Vous savez ça? La colère, c'est un sentiment qui naît des frustrations. Hébreux chapitre 12, verset 8. Veillez à ce que aucune racine d'amertume ou sang de rejeton. Vous connaissez ça? L'amertume, c'est quelque chose. Oui, tu peux m'aider à retrouver le texte exact. C'est dans chapitre 12, mais je ne sais plus très bien où. Le fait que les enfants subissent l'éducation, l'autorité des parents, non pas comme une autorité bienfaisante, non pas comme une autorité qui cherche à les construire, mais une autorité qui vient les écraser, qui vient les obliger à faire des choses sans donner du sens à tout ça, ça entraîne que les enfants sont dans la colère. Et la colère, ça pousse les gens dans les asiles psychiatriques. Beaucoup de formes de maladies mentales sont en rapport avec la colère. Un simple exemple, c'est la paranoïa. Les délires psychotiques. Je suis criminologue, donc je sais de quoi je parle. Ça pousse les gens, pas seulement dans les asiles psychiatriques, ça les pousse au meurtre. Parmi les raisons du passage à l'acte, il y a beaucoup de passages à l'acte liés à la colère. Comment on pousse quelqu'un à la colère? C'est quand on use d'une autorité de mesurer sur lui. Lorsqu'on lui impose des règles dont il ne comprend pas le sens. Les parents ont donc un rôle pédagogique de donner du sens à ce qu'ils font. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas punir les enfants. Ne devenez pas ce genre de parents permissifs qui ne foutent rien, hein, qui laissent l'enfant faire tout ce qu'il veut. Non ! Mettre un parent qui donne du sens aux punitions, qui donne du sens aux fessées, qui donne du sens à tout cela, parce que la Bible demande qu'on donne des fessées quand il le faut. Mais ça a du sens. C'est fait dans une pédagogie. Un bête exemple, on prévient un enfant. Si tu continues à faire ceci, tel sanction te tombera dessus. Mais pas une fois, pas deux fois, trois fois. Mes enfants, c'est très marrant parce que quand ils font des bêtises, j'arrive, paf, je donne une fessée. Et puis je dis, pourquoi je l'ai fait ? Tout de suite, hein. Ah oui, parce que tu avais dit que. Il dit, je l'ai dit combien de fois? Ah, tu as dit plusieurs fois. Donc, est-ce que tu mérites cette fessée-là? Oui, je le mérite. Ça a du sens. Imaginez que je vienne, le pauvre enfant est en train de rigoler, de s'amuser, puis paf, je donne une fessée. Il comprend rien, lui. Il était juste en train de s'amuser, il n'a rien fait de mal. Imaginez un peu que vous faites ça. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois. Qu'est-ce qui va se passer avec votre enfant? Quand vous arrivez, il est en train de danser, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille! Je vais avoir un truc qui me tombe dessus alors que je ne sais rien faire. Il va s'enfuir. Et puis il va construire entre vous et lui des barrières qui feront qu'il ne vous parlera pas. Il ne vous parlera pas de son monde. Il ne vous dira pas qui il est. Il fera des bêtises ailleurs. Et vous allez ramasser ça en cuillère. Élever les enfants, ne pas irriter les enfants, ne pas mettre les enfants en colère, mais au contraire, développer une pédagogie qui rassure. C'est être un père, c'est un boulot. Hein. Ceux qui croient, Matthieu, malheureusement, j'ai que toi en face de moi, excuse-moi, mais c'est comme ça. Matthieu, être un père, c'est un boulot de tout. Temps, 24 heures sur 24. Et crois-moi, c'est un boulot pour lequel tu n'as aucun cours. Il n'y a aucune université pour ça. Il n'y a rien. Tu apprends tout sur le tas. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître la volonté de Dieu pour savoir le faire comme Dieu le demande. Vous savez, le Père, pour éviter d'irriter ses enfants, doit créer une ambiance familiale de la bonne humeur, de la joie de vivre, du rire, des moments symboliques, comme, je ne sais pas moi, à l'occasion d'un anniversaire, faire des trucs, mettre l'enfant en honneur. Parce qu'alors, ça permet de ritualiser et de permettre de faire la paix. Première fonction donc, le père, premier rôle, le père sécurise, il met les enfants sur la voie propice de l'éducation en créant l'ambiance qu'il faut à la maison. en évitant de les irriter par l'autoritarisme, par la domination inutile, par l'arbitraire, par les injustices. Deuxième fonction, mais élevez-les. Élevez-les. Deuxième fonction, le père, il encadre les enfants dans tout ce qu'ils font. Élever un animal, c'est pas simplement lui donner à manger. Vous êtes d'accord? Non? Vous n'avez jamais élevé des animaux? Non? Parce que je vais pas prendre l'exemple des humains, puisqu'il y en a qui n'ont pas élevé des enfants ici. Donc, je dis, quand on élève un animal, on fait en sorte que l'animal ne manque de rien en termes de nourriture. En termes de santé, on veille sur sa santé pour que s'il y a des soucis, on l'emmène chez le vétérinaire. Mais on lui crée un cadre. Ton chenil est là. Tu dois apprendre à aller là-bas. Si tu veux faire pipi, pas dans la maison. Tu dois faire pipi dehors. N'est-ce pas? Des règles minimum qu'on établit pour que l'enfant et vous retrouvez. C'est ça, élever un enfant. C'est pas juste lui donner des bonbons. C'est pas juste lui payer son Nintendo ou son PS7. Hein. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est PS4. Voilà, David, mon fils, il connaît ça parce que ça fait partie de ce qu'il souhaite qu'on lui offre comme cadeau. Ce n'est pas que ça. C'est aussi les cadres dans lesquels on va placer l'enfant. Mais ce cadre dans lequel on va placer l'enfant dépend de la sagesse que Dieu nous donne. Le Père encadre les enfants au quotidien. Il ne les encadre pas seulement par rapport au cadre de la maison, mais il les encadre aussi dans ses relations en dehors. C'est pour ça qu'il faut gagner aussi l'enfant. Il faut que l'enfant vous révèle son monde aussi. Et donc, je dois l'encadrer aussi partout où il va, avec ses copains, avec son école, avec ses enseignantes. Je dois l'encadrer partout, même là-bas aussi. Troisième principe, en les corrigeant. Le père est celui qui discipline les enfants. Un boulot pas facile. Il n'y a personne qui aime ça. Personne. Donner des fessées à ses enfants, entrer dans un rapport de confrontation, gueuler sur les enfants, tout ça, c'est pas vraiment toujours ce qu'on aime. Mais on doit le faire. Moi, j'appelle ça le sale boulot du père. Alors, je constate deux choses dans nos sociétés d'aujourd'hui. Un, beaucoup d'hommes délèguent le sale boulot de corriger les enfants à leurs femmes. Je suis fatigué. J'ai eu une journée chargée. Occupe-toi de ça. Ou bien, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais c'est, je dis oui. Ou parfois, malheureusement, c'est certaines femmes, elles le font toutes seules. Elles demandent par la vie de leur mari, hein, tout de suite. Le drame de l'histoire, c'est quoi? C'est que ça ne passe pas. Le gamin, quand maman gueule, ouais, bon, c'est bien. Ouais, maman a crié, oui, elle a crié, ah oui, elle a dit quoi? Ah, c'est tout. Parce que quelque part, il y a un rôle qui est dévolu au père, et c'est au père de l'assumer. La seule hypothèse, la seule possibilité où le père ou la mère doit faire preuve d'autorité à la place du père, c'est quand le père n'est pas là. C'est malheureusement la réalité de certaines familles, surtout aux États-Unis. Oh, Belgique aussi, partout. C'est le seul cadre dans lequel la femme doit user de l'autorité comme un homme. Mais quand un homme est là, je m'adresse aux pères qui sont là, et peut-être au futur père, c'est à vous de jouer ce rôle, de discipliner les enfants, de remettre les choses en place, d'imposer les règles où ça n'a pas été respecté. Mais, deuxième chose que j'aimerais dire, la discipline, elle commence tôt. Elle ne commence pas à 15 ans, elle ne commence pas à 18 ans. Elle commence où l'enfant commence à comprendre. dire 3, 4 ans, 5 ans. C'est là que ça commence. L'enfant doit apprendre à obéir. C'est un apprentissage que vous devez apprendre à vos enfants à faire. Un enfant n'a pas besoin que tu lui dises « va faire ceci un million de fois » ou que tu le fasses sous des menaces. Un enfant doit pouvoir comprendre et obéir tout de suite. C'est un boulot. Et c'est le boulot du père. Corriger ne veut pas nécessairement dire toujours des fessées. Il y a plusieurs façons de remettre un enfant sur les rails. Quatrième principe, en les corrigeant et en les instruisant. Instruire l'enfant. Ça, c'est l'étape ultime. C'est l'étape où la place est laissée à la discussion, au partage, au dialogue. Je réussis mon éducation en tant que père si mes enfants, en grandissant, deviennent des gens avec lesquels je discute, avec lesquels j'ai une relation où je peux parler avec eux. Mais tout en conservant ce pouvoir de père, c'est-à-dire que s'il le faut, je dis « non, fais ça !» Et l'enfant obéit jusqu'à ses 40 ans, jusqu'à ses 52 ans comme moi. Là, on va dire « ok, non, j'exagère. » Il y a des espaces où, normalement, le papa ne va plus commencer à imposer à son fils parce que c'est trop tard, hein, il est devenu trop vieux. Hein. Mais bon, mais nous devons travailler à ce que cette étape soit réelle, mais une étape où le père a encore une influence sur l'enfant, où l'on n'a pas perdu l'influence, mais où l'enfant écoute encore. C'est une étape, l'instruction ou les avertissements, c'est une étape aussi de transfert de notre savoir moral et spirituel. Voyez-vous ? Tout parent a quelque chose à transférer à ses enfants. Transférer les bagages spirituels que vous avez accumulés. Ce que vous êtes en Christ. Ce que vous êtes devenu. C'est ce qui doit enrichir la vie de votre enfant. Pour que lui aussi continue avec Christ, en s'enrichissant aussi à sa façon, pour aussi continuer le chemin. Il s'agit d'un travail de transmission. Mais, j'avais dit, le grand mot, le tout grand mot, ici, c'est selon Dieu. Nous n'éduquons pas nos enfants selon la culture du pays dans lequel nous nous trouvons. Souvenez-vous de Daniel. Daniel vivait à Babylone. Un peuple complètement idolâtre, opposé à Dieu. Mais Daniel s'était résolu de ne pas se souiller avec la nourriture de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que la base de l'éducation a été telle que c'était impossible de faire autrement. Alors, c'est une belle entreprise, selon Dieu, mais comment on peut réussir cela ? Juste le dernier texte, Matthieu chapitre 23, verset 9, c'est Jésus qui dit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Comment un père peut-il réussir à faire son boulot de père selon Dieu? C'est en se plaçant lui-même sous la paternité de Dieu. En appelant seulement père Dieu. En considérant Dieu comme son propre père qui lui montre comment il doit faire avec le reste. En regardant à Dieu, en imitant son modèle. Et comment on peut le faire? C'est en approfondissant nous-mêmes notre propre relation personnelle avec Dieu. La qualité de notre intimité avec Dieu déteindra sur notre façon de nous occuper des enfants. Plus que les paroles, ce sont les actes de foi et d'amour à l'égard de Dieu. C'est ça qui va formater nos enfants. Ce n'est pas tout ce que nous disons, c'est ce que nous sommes en Christ qui fera que nos enfants le soient. Dieu est le Père parfait. Celui qui peut nous apprendre à le faire. À nous donc d'aller toujours au pied de la croix du Seigneur pour lui demander de nous aider à être les pères que Dieu demande que nous soyons. Amen.